Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Jacques a dit, la radio du lycée Prévert.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Jacques a dit, la radio du lycée Prévert. Vous pouvez nous écouter sur 96.2 FM et en streaming sur jacquesadit.org.
Bienvenue sur notre émission Les liens qui soignent.
Une émission réalisée par la classe de première STSTS M.
Les liens qui soignent.
Le magazine de la santé et du médico-social.
On parle aujourd'hui d'un sujet essentiel, les droits des usagers dans le système de santé.
Tout au long de cette émission, on va explorer différents aspects de ces droits.
À travers des témoignages, des explications, un micro-trottoir et même un débat.
Alors restez avec nous, nous allons écouter Gaëtan qui va nous présenter les droits des usagers dont nous allons parler aujourd'hui.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes ici pour discuter des droits que possèdent les usagers sur leur santé. Nous allons parler des droits des mineurs, de la fin de vie et des personnes de confiance. Un usager est une personne qui a des droits réels d'usage, c'est une personne qui utilise un service public. L'importance des droits des usagers en matière de santé est aujourd'hui fondamentale, à la fois pour la qualité des soins, la dignité des personnes et la confiance dans le système de santé. Le droit des usagers dans la santé, c'est ce à quoi peut prétendre légitimement un usager. Les droits des usagers dans la santé sont un thème essentiel du programme de première STSS car ils permettent de comprendre la place des usagers dans le système de santé, les actions de l'État et politiques de santé, les enjeux d'égalité, de qualité et de protection des personnes. Pour vous sensibiliser à ces droits, une journée est organisée, celle du 18 avril. Le 18 avril est une journée européenne des droits du patient. Elle vise à rappeler l'importance du respect et de la protection des droits des usagers dans le système de santé. Beaucoup de droits sont mis en avant, comme le droit à l'information, le droit au consentement, le droit à la confidentialité, ainsi que le droit aux accès aux soins.
Merci Gaëtan pour cette présentation. Désormais, on vous propose de découvrir ce que les gens pensent.
Grâce à notre micro-trottoir sur les droits des usagers.
On écoute.
Avez-vous déjà entendu parler des directives anticipées ?
Directives anticipées, dans quel domaine ?
Dans la santé ?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment ?
Non.
Oui.
Savez-vous à quoi servent les directives anticipées ?
Ben, la réponse, c'est non, en fait.
D'accord.
Directives anticipées, ça va informer les médecins de vos souhaits concernant les traitements médicaux que vous souhaitez ou non.
Savez-vous quel est le rôle de la personne de confiance ?
Oui. Précisément, que je puisse lui faire confiance en toute situation.
Oui, bah, pour venir vous rechercher à l'issue d'une intervention chirurgicale, puisqu'on n'a pas le droit, même pour un examen qui nécessite qu'on vous endorme. On ne vous laisse pas ressortir comme ça, quelqu'un doit venir vous chercher. Donc, il y a effectivement quelqu'un, un référent. Quoi.
Bah, du coup, en fait, elle permet à la personne d'exprimer à l'avance ses volontés concernant la fin de sa vie. Donc, tout ce qui est traitement, maintien en vie, etc. Au cas où elle ne pourrait pas plus les exprimer.
Selon vous, les personnes ont-ils toujours accès au dossier médical de leur enfant mineur ?
Je suppose.
De l'enfant mineur ? Je pense qu'en théorie, il faudrait. Je ne suis pas toujours certain que ça soit le cas. Voilà.
Que si les enfants le souhaitent ?
Je pense que oui.
Savez-vous quels sont vos droits en matière de santé ?
Alors là, non, j'avoue que non. Pas vraiment, de façon précise, non.
J'en connais certains, mais je ne les connais pas tous, parce que c'est tellement flou. Ben, je sais qu'on a accès à son dossier médical si on le demande, auprès de son médecin, par exemple. Et après, plus précisément, je ne saurais vous dire.
Pas vraiment, c'est flou pour moi.
En théorie, le droit en matière de santé, c'est le droit d'être soigné.
Connaissez-vous les soins palliatifs ?
Oui.
Oui. Je ne suis plus très jeune, j'ai eu une maman forcément très âgée et à la fin de sa vie, voilà, bon, c'est bah, dans les cas, mais ça peut être dans les gens, malheureusement avec des gens beaucoup plus jeunes qui ont des cancers ou des choses comme ça en fin de vie. Donc les soins palliatifs, bah, c'est hyper important, hein, puisqu'ils persistent à ne pas vouloir nous laisser accéder au droit à mourir dans la dignité. Peut-être qu'au moins les soins palliatifs pourraient être développés partout, quoi. Parce que c'est vrai que ça, c'est un problème, il n'y en a pas vraiment partout.
C'est par exemple donner un traitement pour éviter de souffrir à la fin dans sa fin de vie. Sauf que moi, personnellement, je serais plutôt pour le... J'aime pas ce terme, mais qu'on m'euthanasie si jamais je souffre trop et qu'on n'a plus de traitement et que ça ne suffit pas en soins palliatifs. Voilà.
Oui, parce que les soins palliatifs, c'est ce qu'il y a de plus important. Et qu'on a la chance d'être dans une ville où il y a un service de soins palliatifs absolument exceptionnel, qu'on souhaiterait que toutes les villes de France puissent avoir le même soin, ce qui est loin d'être vrai.
Est-ce qu'un mineur peut accéder aux soins médicaux sans l'avis de leurs parents ?
Je n'ai pas l'impression.
Je ne suis pas très sûr. Peut-être en cas d'urgence, s'il y a un cas d'urgence, mais sinon après, je ne pense pas.
D'accord.
Peut-être à partir de 16 ans, c'est comme ils ont la carte vitale. Mais après, non, de toute façon, d'un sang que t'es mineur, les parents sont jamais très loin.
Alors, je répondrai que globalement, non, mais formellement, oui.
Connaissez-vous la sédation profonde et assistée ?
Non, pas précisément. En général, oui, mais les termes exacts, je ne connais pas.
Merci Colline, Chloé, Cassie, Colline, Baptistin et Margot pour ces témoignages.
On voit que les droits des usagers sont parfois mal connus.
Justement, on va maintenant s'intéresser aux droits des mineurs.
Bonjour, aujourd'hui une place essentielle est accordée à la parole du patient mineur qui devient lui aussi acteur de sa santé. Si les droits du patient mineur sont exercés en principe par les titulaires de l'autorité parentale, le mineur doit être informé des actes et examens nécessaires à son état de santé en fonction de ses facultés de compréhension. De même, son consentement aux soins doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. De plus, le droit d'accès au dossier médical d'un patient mineur est exercé par les titulaires de l'autorité parentale, sauf lorsque le mineur s'est opposé à cette consultation afin de garder le secret sur son état de santé. Le médecin doit alors s'efforcer de lui présenter tous les éléments susceptibles de modifier son choix.
Comme dans l'exemple de Madame Jackie, qui conduit son fils Clotaire, 12 ans, chez son médecin traitant. Il se plaint depuis quelques temps d'une douleur à la cuisse qui lui fait traîner la jambe. Le médecin prescrit des radiographies et il remet à Madame Jackie une lettre pour le chirurgien. Alors, pour Clotaire, son consentement devra être admis s'il est apte à exprimer sa volonté et à prendre part à la décision. D'autant plus, dans son cas, si le diagnostic d'ostéochondrite de hanche est confirmé, ils seront plus déterminantes pour lui car cette pathologie nécessite un traitement long et complexe rendant indispensable sa coopération. Pour en conclure, les mineurs ont leur droit à la santé qui doivent être respectés et reconnus par tous.
Jacques Adi, la radio du lycée Prévert.
Nous sommes avec Madame Célia Verland, coordinatrice régionale de France Asso Santé des Normandies.
Est-ce que vous pouvez nous présenter France Asso Santé et votre rôle au sein de la structure ?
Alors, donc moi, je suis Célia Verland, la coordinatrice régionale de France Asso Santé Normandie. France Asso Santé, c'est une union d'associations de patients qui est apparue dans la loi de modernisation du système de santé le 26 janvier 2016, dans son premier article, et créé cette union d'associations. En Normandie, on compte environ 75 associations adhérentes qui sont réparties en plusieurs collèges. On a un collège sur les maladies, comme la Ligue contre le cancer, la FM Téléthon, l'Alliance Maladies Rares, c'est ce genre d'associations. On a un deuxième collège de personnes âgées, personnes retraitées. Un troisième collège qui est sur le handicap, avec notamment des associations comme l'UNAFAM, l'APF France Handicap ou France Alzheimer. Un quatrième collège des familles, avec notamment les UDAF, les unions départementales des associations familiales. Un cinquième collège de consommateurs, avec des associations comme l'UFC Que Choisir et la CLCV. Un sixième collège qui concerne la précarité, où là on va retrouver les Petits Frères des Pauvres et puis une association régionale qui est l'Abri, qui est hébergée à Évreux. Et un dernier collège sur la qualité et sécurité de la prise en charge, comme l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Jalmalve, le lien, ces choses-là.
Quelles sont vos principales missions concernant les droits des usagers ?
Donc on a cinq grandes missions en région. La première, c'est d'informer sur les droits des patients de manière générale. Donc par exemple, l'an dernier, on a créé avec deux autres régions, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, un livret de coloriage sur les droits des enfants hospitalisés. On a aussi une ligne d'information juridique qui s'appelle Santé Info Droit, qui est ouverte à tout le monde tous les après-midi du lundi au vendredi. Et sur cette ligne, des juristes et des avocats qui répondent à tout le monde, que ce soit usagers ou professionnels, sur toutes les questions juridiques qui sont liées de près ou de loin à la santé, au handicap. On a une deuxième mission qui est de former aux droits en santé. Donc on va former les bénévoles de nos associations adhérentes et ceux qui ont un mandat de représentant d'usagers dans des instances réglementaires. On a également une mission de plaidoyer où on peut proposer des améliorations du système de santé. Une quatrième mission d'animation du réseau de nos associations et des représentants d'usagers. On a une dernière mission qui est de représenter les usagers dans les institutions. Donc le terme « représentant des usagers », c'est un terme réglementaire. Il s'agit de bénévoles qui sont issus d'une association qui a l'agrément santé, ce qui est différent de la notion d'intérêt public. L'agrément est délivré par la Commission nationale d'agrément. Il peut être régional ou national. Et les représentants des usagers représentent tous les usagers dans les instances, quelle que soit leur pathologie ou difficulté. Et ils sont soumis au secret professionnel, de la même façon que les professionnels de santé. Et au niveau national, il y a une dernière mission qui est le fait de pouvoir agir en justice, en se portant en partie civile sur des affaires spécifiques.
Selon vous, les Français sont-ils suffisamment informés de leurs droits en fin de vie ?
Alors, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Du coup, sur la fin de vie, ils connaissent... Alors, on va dire qu'un Français sur deux connaît la notion de sédation profonde continue, c'est-à-dire le fait de soulager la douleur quand la personne est en fin de vie. La notion de directive anticipée aussi, où on peut écrire ce qu'on souhaite pour la fin de vie, c'est-à-dire être réanimé ou pas, ou arrêter les traitements pour éviter l'acharnement thérapeutique, ces choses-là. Donc ça doit être écrit, et ça c'est très peu connu aussi. On peut choisir d'interrompre ou ne pas accepter un traitement, ça aussi c'est un petit peu mieux connu, mais moins, parce qu'il y a à peu près 58% des Français qui sont au courant de ce droit-là. Par contre, ils savent à 61% qu'ils ont droit à voir leur douleur soulagée. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui sait qu'elle peut bénéficier de soins palliatifs quand elle est en fin de vie. Et par contre, la personne de confiance, donc le fait de désigner une personne qui pourra prendre des décisions pour nous si jamais on est dans une situation qui nous en empêche, là, c'est connu à 71% des personnes.
Je vous remercie pour avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Et on continue avec un sujet délicat mais très important.
La question de la fin de vie.
La loi du 2 février 2016 encadre les droits des personnes en fin de vie. Elle ne crée pas un droit à mourir, mais renforce les droits existants et précise les conditions de certaines pratiques médicales. Toute personne a le droit de refuser ou d'arrêter un traitement, même si ce refus met sa vie en danger. Le médecin doit informer le patient des conséquences de son choix si le refus persiste. Il doit être respecté, le patient reste donc maître de ses décisions concernant sa santé. Les professionnels de santé ne doivent pas poursuivre les traitements inutiles disproportionnels ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. On parle alors d'obstination déraisonnable. Les traitements peuvent être arrêtés ou ne pas être entrepris. La décision est prise de manière collégiale lorsque le patient ne peut plus s'exprimer.
La fin de vie est un sujet sur lequel il est difficile d'échanger. La sédation profonde, les directives anticipées sont autant de sujets difficiles à aborder quand on se sent bien. Et pourtant, il est essentiel de faire connaître ses choix pour le cas où une maladie ou un accident surviendrait et empêcherait de les exprimer. Selon l'article 1 de la loi Leonetti du 22 avril 2005, l'acharnement thérapeutique qualifié d'obstination déraisonnable est condamné et permet l'arrêt des traitements jugés inutiles ou disproportionnés.
Le peu de temps qui reste à vivre doit pouvoir être pleinement investi par le mourant et sa famille de la manière la moins douloureuse possible. La loi vise à mieux prendre en compte la volonté du malade. Le confort de la vie prime sans ambiguïté sur la durée de vie. Le mourant ne doit pas souffrir, c'est pourquoi une souffrance doit pouvoir être soulagée, même si les doses de médication nécessaires pour calmer la douleur peuvent aussi avoir pour effet secondaire de hâter la mort.
Merci Loane et Savannah pour ces explications.
La personne de confiance. Savannah et Paloma vont nous en parler.
Bonjour à tous. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Une personne de confiance écoute, conseille et intervient comme médiateur en ce qui concerne les risques psychosociaux sur le lieu de travail, des comportements abusifs aux problèmes de stress en passant par les conflits. Quelles sont les limites d'intervention ? La personne de confiance a un rôle consultatif. Le médecin référent reste décisionnaire. La personne de confiance ne pourra pas obtenir communication de votre dossier médical, à moins que vous lui fassiez une procuration en ce sens. La personne de confiance ne dispose cependant pas d'un droit d'accès direct au dossier médical du patient.
La personne de confiance peut, si vous le souhaitez, vous soutenir dans votre cheminement personnel et vous aider dans vos décisions concernant votre santé. Assister aux consultations ou aux entretiens médicaux, elle vous assiste mais ne vous remplace pas. Prendre connaissance d'éléments de votre dossier médical en votre présence, elle n'aura pas accès à l'information en dehors de votre présence et ne devra pas divulguer des informations sur votre accord. La personne de confiance peut intervenir dans des contextes médicaux particulièrement encadrés par la loi, comme les essais thérapeutiques, elle reçoit l'information adaptée si le patient ou son représentant légal ne peut pas la recevoir. La recherche biomédicale dans les situations où le consentement de la personne ne peut être recueilli, urgence ou personne hors d'état de le donner. Celui-ci peut être demandé à la personne de confiance. Les tests génétiques, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de la personne concernée, la personne de confiance peut être consultée. Et enfin, lors d'une hospitalisation psychiatrique sous contrainte, la personne de confiance peut accompagner la personne malade lors des autorisations de sortie. Les personnes mineures doivent faire un formulaire désignant la personne de confiance.
Merci Savannah et Paloma pour ces éclairages.
On revient maintenant sur notre micro-trottoir que vous avez entendu en début d'émission grâce à Cassie, Colline, Chloé et Colline.
Avec un retour d'expérience.
Bonjour à tous, je me présente, je suis Cassie et je suis accompagnée de mes camarades Chloé, Colline et Colline. Nous nous sommes rendus devant le pôle santé afin d'interviewer des personnes sur leurs connaissances en droit des usagers. Après plusieurs tentatives, nous avons eu beaucoup de refus par des personnes de tout âge. Ils ne souhaitaient pas prendre du temps pour répondre à nos questions.
Malgré tout, nous avons eu quelques personnes qui nous ont répondu, puis nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient peu de connaissances en droit des usagers et nous avons dû retravailler nos questions afin qu'ils puissent y répondre.
Cette expérience nous a apporté du positif et de la discussion avec des personnes de tout âge. Néanmoins, nous conseillons aux gens de se renseigner davantage sur les différents droits.
Nous avons tout de même pris un grand plaisir à participer à ce micro-trottoir malgré les difficultés rencontrées.
Merci à vous, Cassie, Colline, Chloé et Colline, pour votre retour.
Chakadi, la radio du lycée Prévert.
Vous êtes toujours sur Les Liens qui soignent.
On termine cette émission avec un débat
autour des droits des usagers et de leur application concrète.
Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette émission ?
Ce qui nous a le plus intéressé, moi je dirais que c'est l'envie de pouvoir réussir à mener ce projet malgré les difficultés rencontrées. On a tout de même réussi à répondre aux différents besoins, aux questions et on en est fiers même si il y a eu des problèmes.
Alors, je suis l'enseignante de la première ST2S et ce projet nous tenait à cœur parce que au cours de l'apprentissage, on s'est rendu compte que déjà les élèves ne connaissaient pas du tout leurs droits et d'autre part leur famille y compris. Donc quand ils sont rentrés chez eux avec ces informations-là, ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. D'où ce projet d'émission, c'est comme ça qu'il a été créé. Et, on a voulu aller auprès des habitants de Pont-Audemer pour savoir eux ce qu'ils en pensaient et qu'est-ce qu'on pouvait apporter comme information.
Nous avons apprécié cette émission parce qu'elle nous a permis d'enrichir nos cours pour en apprendre plus sur les droits des usagers. ainsi que pouvoir se renseigner sur le fait que beaucoup de personnes ne connaissaient pas leurs droits et ça nous a permis d'avancer.
Merci pour ce débat enrichissant.
On arrive bientôt à la fin de notre émission.
On va laisser la parole à Margot, Héloïse et Lisa pour la conclusion.
On peut retenir que les droits des usagers dans le système de santé sont essentiels pour garantir le respect, la dignité et la liberté de chaque patient, que ce soit pour les personnes en fin de vie ou pour les mineurs. Ces droits permettent de mieux prendre en compte la personne, ses besoins, ses choix et sa parole. En ce qui concerne la fin de vie, la loi encadre les décisions médicales afin d'éviter l'acharnement thérapeutique et de respecter la volonté du patient. Des dispositifs comme les directives anticipées ou la personne de confiance permettent à chacun d'exprimer ses souhaits pour les soins et l'accompagnement. L'objectif est d'assurer une fin de vie la plus digne et la plus apaisée possible, tout en tenant compte des valeurs et des décisions de la personne concernée.
Les mineurs, la situation est un peu différente, puisque les parents ou les représentants légaux prennent généralement les décisions médicales. Cependant, la loi reconnaît aussi que les mineurs doivent être informés et que son avis est pris en compte en fonction de son âge et de sa maturité. Cela permet de respecter progressivement son autonomie et de l'impliquer dans les décisions qui concernent sa santé. Finalement, ces droits rappellent que le patient n'est pas seulement une personne à soigner, mais aussi une personne à écouter et à respecter. Le système de santé évolue aujourd'hui vers une approche plus humaine où le dialogue entre les patients, les familles et les professionnels de santé est au cœur des décisions. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission. Nous espérons vous avoir permis de mieux comprendre ces droits qui concernent chacun d'entre nous.
Les liens qui soignent.
Le magazine de la santé et du médico-social.
Merci à tous les intervenants pour leur participation, notamment Margot pour la régie plateau, Alice pour la production musicale et Léna et Lucille pour le montage.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes comme Spotify, etc.
On espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre davantage
sur les droits des usagers dans le système de santé.
À très bientôt.
Au revoir.
Jacadi, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et en podcast sur les plateformes musicales.